De Radio Courtoisie, bonsoir et bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises, une deuxième partie qui sera un peu particulière puisque nous l'interromprons comme il y a trois semaines de cela pour le premier tour des législatives, et bien nous l'interromprons pour écouter les résultats à 20h par quelques minutes de pause afin que ceux qui le souhaitent prennent connaissance des résultats, et nous reprendrons le fil de notre émission, et nous espérons que vous serez nombreux à nous écouter malgré cette soirée électorale. Et nous allons d'ailleurs ce soir parler de coalition, mais pas de coalition électorale. Nous allons parler de celle qui tenta d'abattre la France naissante et grandissante, d'ailleurs, que patiemment, à cette époque, bâtit Philippe Auguste, le roi capétien d'ailleurs, qui tripla durant son règne la superficie des terres dues au royaume. Et cette politique d'expansion ne pouvait qu'heurter ses voisins ou ses adversaires concurrents traditionnels du royaume de France en Europe. Eh bien, ses adversaires s'allièrent et attaquèrent le royaume de France sur deux fronts. On est là au début du XIIIe siècle, qui furent ses ennemis de la France, ses adversaires qui attaquèrent le royaume et le roi de France sur deux fronts. Eh bien, il y a tout naturellement, tout d'abord, le royaume d'Angleterre avec Jean sans Terre, et puis il y a l'Empire avec Othon de Brunswick. Et à Jean sans Terre et Othon de Brunswick, se sont rajoutés un certain nombre de grands féodaux, le comte de Flandre, le comte de Bourgogne, le duc de Lorraine et le duc de Brabant. Donc une coalition aux forces impressionnantes qui s'attaquent au royaume de France. Aux côtés de Philippe Auguste combattent d'autres féodaux comme Eudes de Bourgogne, Robert de Dreux, Mathieu de Montmorency, tous grands vassaux du roi. Et l'affrontement va avoir lieu à la bataille de Bouvines, mais aussi à une autre bataille que nous évoquerons qui, elle, s'est passée au sud de la Loire. Avec la bataille de Bouvines, c'est l'autorité du roi de France qui s'affirme, mais aussi le récit national qui fait de cette victoire celle, en quelque sorte, du peuple de France qui était représenté à cette bataille par ses milices communales. C'est une grande victoire, en quelque sorte, de la souveraineté française. On n'oserait pas dire du patriotisme, parce que ce terme n'existait pas encore, mais notre invité ce soir va nous dire si on peut qualifier cette victoire comme celle du patriotisme naissant, en quelque sorte. En tout cas, on peut le qualifier de sentiment national naissant. Ce soir, donc, nous consacrons cette émission à la bataille de Bouvines et aussi, bien sûr, aux événements qui l'entourent, à ses prémices, donc, à ses enjeux. Il y a un accent particulier sera mis sur les adversaires en présence, les adversaires du royaume de France, donc avant tout le royaume d'Angleterre et l'Empire. Un livre passionnant vient d'être publié, c'est pour ça que nous faisons cette émission autour de ce livre. Un livre qui est donc consacré à la bataille de Bouvines et sous-titré « La confirmation de la souveraineté, car l'enjeu, effectivement, c'est la souveraineté du Royaume de France. Ce livre est publié aux éditions Passé Composé et écrit par Gaël Nofri, que nous avons donc le plaisir de recevoir ce soir. Gaël Nofri, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir en direct par Zoom, parce que vous êtes loin. Vous êtes dans le sud de la France, mais on vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible, malgré les événements électoraux et puis aussi des événements familiaux qui vous occupent naturellement beaucoup. Donc nous sommes très reconnaissants.
Merci à vous.
Hein, voilà, d'être présent parmi nous autour de ce livre passionnant que vous avez écrit donc sur la bataille de Bouvines. Et livre, il faut le préciser, quand même, qui a été salué notamment par Jean Sevilla dans le Figaro magazine. Je lis quelques lignes de ce qu'il dit. Hein. Bouvines, légende nationale, la victoire de Philippe Auguste sur les alliés du roi d'Angleterre à Bouvines le 27 juillet 1214 est au fondement du récit national français. Il conclut sur un article en écrivant « Gaël Nofri n'est pas dupe de la part de légende dans cette présentation des événements, mais montre précisément que la légende de Bouvines a contribué à forger un imaginaire qui reste un marqueur du sentiment national français. » Je vais vous présenter, je crois que c'est la première fois que vous intervenez à Radio Courtoisie, vous êtes déjà venu ou...
Oui, je suis venu quelques fois chez vous.
Vous êtes bon. Donc, certains auditeurs vous connaissent donc. Je précise que vous êtes historien et que vous avez déjà écrit un certain nombre de livres, notamment consacrés à Napoléon III, aux éditions oui. François-Xavier de Guibert. Et vous avez aussi publié aux éditions du CERF une histoire des révolutions en France.
Tout à fait.
Et j'aimerais vous demander justement la première question. C'est ce sujet, ce thème de Bouvines est éloigné des thèmes que vous avez traités précédemment. Vous avez aussi publié un livre sur De Gaulle aux éditions de l'Harmattan. Bon, Napoléon III, l'histoire des révolutions, là on est à Bouvines. C'est un thème très, très différent. Qu'est-ce qui vous amène à traiter de ce sujet ?
Ce que je recherche à travers les différents sujets que j'ai pu aborder, c'est la question de la nation et de son fonctionnement. Avec Bouvines, j'ai souhaité, après m'être interrogé avec Napoléon III sur en quoi celui-ci avait été fondateur d'une partie de la France moderne et d'une forme finalement de politique de réconciliation à une époque compliquée, de réconciliation nationale au tournant de la Seconde République, avec, effectivement, j'ai participé à plusieurs ouvrages collectifs, dont celui sur De Gaulle. Alors maintenant, je m'étais posé la question du rapport de De Gaulle à Dieu, et puis l'histoire des révolutions, effectivement, ce qui est à la fois un moteur et un destructeur de l'État et de la nation en France. Avec Bouvines, se pose la question de la souveraineté. De la souveraineté non pas au sens moderne où on l'entend, mais d'une souveraineté qui n'en est pas éloignée et qui quelque part en découle, qui est la souveraineté originelle et dont les premiers Capétiens vont donner une définition et dont la bataille de Bouvines va véritablement être le moment où cette définition va s'incarner réellement, physiquement et va tendre à constituer une nation. Pour moi, Bouvines est vraiment à cette charnière entre, je dirais, les prétentions à la souveraineté, les prétentions à une place à part qu'ont les premiers Capétiens, les rois de France, les premiers Capétiens, et cette nation que vont constituer patiemment l'ensemble des Capétiens et qui va trouver, après Bouvines, et dans le temps évidemment long, matière à s'incarner sur le territoire et à se traduire par des actes politiques concrets.
Mais pourquoi les victoires précédentes remportées par les Mérovingiens, les Carolingiens, par exemple, n'incarneraient pas cette souveraineté française ou la naissance en quelque sorte de la souveraineté française? Pour quelles raisons faites-vous démarrer cela à la bataille de Bouvines?
Parce que, alors, je traiterai sans doute plus tard d'autres batailles, et notamment mérovingiennes, puisque, évidemment, avec Clovis et notamment Tolbiac, et j'y fais référence
Oui.
dans l'ouvrage sur Bouvines, il y a effectivement quelque chose de très important et de très fondateur qui se passe. Mais le projet national français naît avec les Capétiens. Il y a effectivement avec les Mérovingiens, je dirais, la base de ce que sera durablement la France, avec à la fois le peuple franc, le substrat gallo-romain, la religion chrétienne et l'établissement d'un pouvoir. Pour autant, que ce soit les Mérovingiens ou plus tard les Carolingiens et l'Empire perdu, je dirais de Charlemagne, nous ne sommes pas sur la constitution du royaume français, royaume franc puis français, tel qu'il va être, il va hériter, être hérité dans l'histoire. La division du traité de Verdun en fixe certes les contours du royaume français, ou en tout cas du premier royaume français, mais c'est vraiment avec les Capétiens, avec ce travail de précaré, avec ce travail d'affirmation d'une souveraineté, d'une spécificité, cette volonté de s'extraire de la tutelle impériale, cette volonté de n'être le vassal d'aucun que vont manifester à plusieurs reprises les premiers Capétiens, que s'affirme ce projet national français qui va se constituer d'abord autour du domaine royal capétien, ou on pourrait dire même robertien, hein, puisque les Capétiens sont une extraction de la dynastie des Robertiens, mais voilà, ce premier domaine royal et qui va progressivement s'agrandir autour d'une idée qui est celle de la vocation particulière, spécifique et du rôle tout à fait à part des rois de France et qui trouve quelque part comment dire, sa légitimité ou en tout cas son point de départ dans le sacre.
Qu'est-ce qui vous a fait, d'autre part, écrire ce livre? Est-ce que vous avez découvert des sources nouvelles concernant la bataille de Bouvines, ou, comme vous le soulignez, c'est toute cette réflexion autour de cette notion de souveraineté dont on sait qu'elle vous est chère?
Non, non, ce n'est pas des sources nouvelles. Je dirais que sur le travail de sources, beaucoup a été fait par de très grands historiens, évidemment Georges Duby, Dominique Bertholomée, qui ont écrit des bouvines tout à fait remarquables sur le plan historique. Mais il y avait véritablement cette réflexion chez moi autour de qu'est-ce qui, quelque part, à un moment donné, a fait que la nation française a pris les marques qu'elle a prises, et aussi dans une époque où on a tendance à rejeter les hauts faits, les batailles, les personnages politiques ou publics comme étant déterminants, je crois que la bataille de Bouvines est une affirmation de cette théorie selon laquelle tout est inéluctable et les choses s'écrivent dans le temps long. Non. Il y a des actions qui sont déterminantes, il y a des choix qui sont déterminants, il y a des choix politiques qui sont déterminants, il y a des personnalités qui sont déterminantes. Et je crois que Bouvines est un moment qui incarne ce tournant, qui synthétise les querelles du moment et qui véritablement fait prendre une part déterminante, une position décisive qui va marquer l'histoire durablement et qui va marquer ce que va devenir et ce qu'est aujourd'hui la France.
Alors je présente les parties principales, si vous voulez bien, de votre livre, dont je rappelle le titre, Gaëlle Laufry, Bouvines, la confirmation de la souveraineté, que vous publiez aux éditions Passé Composé. Et je rappelle aux éditeurs de Radio Courtoisie que leurs messages, leurs remarques seront les bienvenus. Marie-Hélène est au standard. Elle n'attend que ça, que vos messages, chers auditeurs, que nous proposons donc ce soir à Gaëlle Laufry autour de ce sujet qui est un beau thème quand même, cette bataille de Bouvines. Donc Gaëlle Laufry, les parties principales de votre livre, tout d'abord vous, une première partie qui est consacrée à Philippe Auguste ou la nation combattante, où vous parlez du royaume de France et la manière et sa situation à l'avènement de Philippe Auguste et la manière et la politique qu'il a menée pour en quelque sorte l'augmenter, le faire tripler de volume, ce qui va conduire à cette coalition. Et puis la bataille de Bouvines, vous terminez cette partie principalement par le récit de la bataille de Bouvines. Puis vous évoquez Jean d'Angleterre, donc Jean sans terre, l'ennemi insulaire, mais c'est avant tout l'occasion de faire le récit de cette puissance extraordinaire. C'est le titre de ce chapitre consacré aux Plantagenêts, puisque Jean sans terre est un Plantagenêt. Les Plantagenêts sont d'origine d'Anjou. Donc vous expliquez, vous racontez la puissance des Plantagenêts. Et puis ça nous amène jusqu'à cette bataille désastreuse perdue par Jean sans terre, donc sur le front sud, hein, puisque sur le front sud du conflit. Et puis troisième partie principale, c'est celle que vous consacrez donc à Othon de Brunswick avec l'Empire. Hein, l'Empire repoussé au premier rang donc des perdants de Bouvines. L'Empire, c'est compliqué. Hein. Nous allons le voir surtout à cette période. Oui. Mais vous le rendez très clair. Hein. C'est vraiment passionnant. Et puis, vous terminez en évoquant des perdants qui sont les grands féodaux. Les grands féodaux qui ont été vaincus à Bouvines. Il s'agit principalement Renaud de Flandre. Renaud de Dammartin, pardon, et du comte de Flandre. Vous racontez effectivement leur destin suite à cette bataille de Bouvines. La question que nous allons rentrer, bien sûr, dans ces parties de manière chronologique, mais vous développez beaucoup, justement, les prémices de la bataille et puis la situation de chaque acteur principal jusqu'à cette fameuse bataille de Bouvines et les conséquences de la bataille de Bouvines qui seront considérables, d'ailleurs, au Royaume d'Angleterre. Hein, sur la suite, effectivement, de la monarchie anglaise. Le récit de la bataille, proprement dit, et n'occupe que quelques pages de votre livre. S'agit-il d'une volonté de votre part ou au contraire parce que finalement on a assez peu de sources descriptives de cette bataille ?
Oui, sur la bataille en tant que telle, on a très très peu de sources. Essentiellement, on a le chroniqueur Guillaume Le Breton qui, chapelain du roi de France, assiste à la bataille et qui en a laissé une description. Mais il est évident que l'on a peu de sources de cette bataille. J'ai essayé à la fois d'emporter effectivement les différents éléments dont on pouvait être certain, d'évoquer aussi quelques pistes, et puis là aussi de dégager ce qui, dans cette bataille, m'apparaissait le plus important, au-delà de la querelle des chiffres sur le nombre de belligérants en présence, puisque depuis deux siècles, les historiens débattent de ce chiffre, de ces chiffres, et évidemment, c'est toujours des choses tout à fait compliquées à déterminer, et par définition, le manque de sources la rend d'autant plus compliquée. La bataille en tant que telle à quelques éléments quand même totalement intéressants ou déterminants. La première, c'est que Philippe Auguste ne veut pas se battre, parce que le fait même qu'il y ait une bataille importante est une exception. Nous sommes à une époque où on évite les grandes batailles, les conflits importants, on préfère esquiver, se mesurer, et puis conclure des traités beaucoup plus que d'engager de grands affrontements. Bouvines est un grand affrontement pour une raison simple, c'est que, en réalité, Philippe Auguste ne pense pas engager cette bataille. Il a, le samedi soir, réuni ses troupes, décidé, au vu de la proximité de l'armée coalisée, de profiter du dimanche, le jour de Dieu, le jour où on ne livre pas bataille dans le monde chrétien, pour engager une retraite vers un territoire qui lui paraîtrait à la fois plus familier et aussi plus sûr pour ses troupes en cas d'attaque coalisée. Et donc, il effectue un retrait qu'il pense, entre guillemets, protégé par la trêve de Dieu. Face à ce retrait, l'armée coalisée menée par l'empereur Otton de Brunswick va croire, semble-t-il, à une fuite, à une déroute de l'armée française. Il faut dire que c'était des choses qui arrivaient, puisque quelques jours auparavant, à La Roche-aux-Moines, les troupes anglaises de Jean sans Terre avaient fui devant les troupes françaises du prince héritier, le futur Louis VIII, et avaient perdu comme cela. Et Otton IV, finalement, croit être dans la même situation et va engager le combat. Finalement, Philippe Auguste, informé des attaques, va s'organiser pour se battre. Mais voilà, c'est un combat qui n'était pas à la base prévu et qui va aboutir à un combat important.
Nous allons laisser le combat à proprement dire un peu de côté et nous allons y revenir, bien entendu, quand même. Il y a quand même des choses à raconter sur ce combat proprement dit. Merci d'avoir expliqué effectivement pourquoi effectivement, le récit de cette bataille est relativement court, effectivement, par le manque de sources décrivant les tactiques abordé, mais en tout cas, il est quand même passionnant à lire et nous vous écouterons plus en détail pour essayer de comprendre les raisons de cette effectivement victoire sur le plan donc tactique, sur le plan donc militaire. Ce que je vous propose, c'est que nous abordions maintenant la première partie de votre livre qui est vraiment moi qui m'a passionné, hein, que vous avez intitulé Philippe Auguste ou la nation combattante. J'aimerais savoir pourquoi vous avez appelé le royaume de France la nation combattante et notamment ce premier chapitre où vous présentez donc Philippe Auguste comme l'héritier de l'œuvre capétienne. Il est sacré à 1179 à Reims. Hein, juste pour que les auditeurs de Radio Courtoisie puissent situer les choses, Bouvines, c'est 1214. Hein, il est sacré donc en 1179 à Reims. Vous écrivez que, à cet égard, Philippe Auguste est donc l'héritier de cette œuvre capétienne que vous décrivez dans ce chapitre, avec un domaine royal, proprement propriété du roi de France, qui est un domaine restreint, petit, notamment par rapport aux autres possessions des grands féodaux, de certains grands féodaux sur le royaume de France. On pense par exemple aux Plantagenets, possession que vous décrivez dans la partie suivante de votre livre. Et là où j'ai trouvé votre livre passionnant, c'est que vous expliquez pourquoi les Capétiens, malgré une géographie vraiment inférieure à celle des grands féodaux, pourquoi effectivement les rois capétiens ont pu justement mettre en place leur souveraineté, faire accepter cette souveraineté, leur pouvoir par rapport aux grands féodaux. C'est quelque chose que vous expliquez parfaitement dans votre livre. Donc je vous laisse, je vous rends la parole et je vous laisse expliquer les points principaux de ce chapitre, en quoi Philippe Auguste est l'héritier de l'œuvre capétienne, pour quelles raisons, et la politique qu'il va mener justement pour agrandir le royaume.
Oui, parce que la réalité de l'époque du royaume, c'est que c'est à la fois un royaume prestigieux, mais c'est aussi un royaume faible. Les premiers Capétiens possèdent le prestige du sacre, qui quelque part commémore le baptême de Clovis, et en même temps commémore ou rend témoignage du rôle tout à fait particulier du royaume de France, du royaume des Francs, au regard de la chrétienté et du rapport à Dieu. C'est le fameux Gesta Dei per Francos, le geste de Dieu par la main des Francs, que l'on retrouve tout au long de l'histoire des rois francs. Pour autant, et même si cette dimension du sacre, toujours répétée par les premiers Capétiens, de leur du vivant pour passer à leur fils la légitimité et le flambeau, à leur fils aîné et mâle, ne suffit pas à faire le poids politique, ou en tout cas l'autorité. Les rois francs sont les héritiers, les Capétiens sont les héritiers de la dynastie des Robertiens. On se rappelle que Robert, Eudes, comte de Paris, ont fait leur titre de, entre guillemets, leur titre de noblesse, ou en tout cas leur réputation et leur prestige, au moment où les Carolingiens sont avérés incapables de défendre les environs de Paris, notamment contre les raids vikings. Et de là, il y a eu un début de confrontation.
Alors, je vous propose que nous reprendrons justement là à l'histoire de Robert et d'Eudes, hein, comment, effectivement, ils ont installé la dynastie capétienne sur le trône. Je vous propose que nous fassions cette interruption que nous avons évoquée à peu près 5 minutes. Tout d'abord, un message de la radio, puis la pause musicale. Alors, vous avez choisi Guillaume Tell, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Vous expliquerez après, si vous le voulez bien, pourquoi vous avez choisi cette pause musicale. À peu près 5 minutes, surtout, vous restez bien en ligne. Et nous vous retrouvons afin de permettre à chacun d'écouter les résultats des élections. Et nous reprenons cette émission juste après, hein, si vous le voulez bien.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bon, chers auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien nous reprenons cette émission, effectivement, après cette pause, cette pause musicale qui a permis à chacun de prendre connaissance donc, des résultats électoraux. Nous revenons donc, restez avec nous, parce que nous avons un invité passionnant qui commente, qui explique un livre passionnant consacré à Bouvines, la confirmation de la souveraineté aux éditions passées, composées, le roi de France, Philippe Auguste, combat et vain, cette coalition extrêmement puissante voulue, nous allons le voir, par le roi d'Angleterre pour imposer justement la souveraineté française. Gaël Laufry, vous nous entendez ?
Très bien.
Bon, je vous propose de reprendre la discussion avec vous concernant donc la situation du royaume de France au moment de l'avènement.
Oui,
alors, avant d'en arriver donc à l'avènement donc de Philippe Auguste, je voulais vous poser deux questions. La première, c'est pourquoi avez-vous choisi la pause musicale Guillaume Tell ? Il y a une raison à cela, et je pense qu'elle sera intéressante. Ce sera intéressant de l'entendre. Et puis aussi, vous étiez rendu effectivement à la manière dont la dynastie des Capétiens, des Robertiens, s'était imposée après les Carolingiens. Ça serait intéressant que vous nous expliquiez comment cela s'est réellement produit. Est-ce que ça s'est produit par une sorte de coup d'État ou par tout simplement élection, puisque le roi des Francs était élu à l'époque par ses pairs. Alors nous vous écoutons sur Guillaume Tell et sur le basculement, le changement de dynastie. Voilà.
Sur Guillaume Tell, il s'agissait essentiellement d'un clin d'œil, puisque on parlait d'une bataille, on le disait tout à l'heure, l'essentiel du livre décrit plus la marche vers la bataille et les conséquences de la bataille que la bataille en tant que telle, mais une bataille c'est aussi un souffle épique, et l'ouverture de Guillaume Tell est un moment, et a un souffle épique particulièrement entraînant, c'est pour ça que c'était un clin d'œil. Sur la question des premiers Capétiens, en tout cas de la dynastie des Robertiens, effectivement, face à, je dirais, à la faiblesse et à l'incapacité des Carolingiens à assumer leur mission, les comtes de Paris vont progressivement se substituer au roi des Francs occidentaux, voire des Francs réunis, quand certains arriveront à réunir temporairement sur leur couronne les deux entités, mais rapidement, effectivement, l'essentiel du pouvoir va échoir par élection, par soutien des grands, en tout cas, hein, le mot élection n'a pas la connotation que l'on peut lui apprendre, porter, mais soit sous la forme de la couronne, soit sous la forme du titre de duc des Francs aux Robertiens, et après Hugues le Grand, Hugues Capet va directement devenir roi des Francs et fera sacrer ses héritiers, et l'ensemble des héritiers se feront sacrer de leur vivant pour maintenir, à travers ce geste rituel qui en font un être totalement à part dans la société médiévale, loin du seigneur, disposant d'une fonction sacrée au sens littéral du terme, le roi des Francs, deviendra roi de France avec Philippe Auguste, a une place totalement à part. Pour autant, le pouvoir réel, la capacité d'action, la capacité de décision réelle de ces monarques repose sur leur capacité à lever une armée, à disposer de finances. Et ça, à cette époque où il n'y a pas d'impôts évidemment réguliers, où il n'y a pas d'armée évidemment régulière, ça dépend d'abord et avant tout du domaine royal dont ils disposent. Or, le domaine royal des premiers Capétiens est relativement très restreint. Alors, quand on parle de domaine royal, on a tendance, et on se rappelle tous de nos cartes d'écoliers, à voir des taches sur une carte de France. Le domaine royal, c'est un peu plus complexe, parce qu'en réalité, le domaine royal, c'est l'ensemble des droits que possède le monarque sur des terres. Ça peut être effectivement des terres qu'il possède en propre, ça peut être des terres dont il est le suzerain direct et immédiat. Ça peut être aussi des droits spécifiques sur tel ou tel revenu, tel ou tel droit. Bon. Mais les droits des Capétiens, des premiers Capétiens, sont très restreints. On parle de quelques... d'un espace entre Chartres, Bourges, Orléans, voilà, c'est quelque chose de relativement restreint. À côté de cela, on a des très grandes dynasties que sont notamment, vous avez parlé des Plantagenets sur lesquels nous reviendrons évidemment, mais on a d'autres grandes dynasties que sont la famille de Champagne et qui va donner une reine, la mère de Philippe Auguste, et qui va donner aussi un évêque de Reims. Et on a aussi des dynasties comme la dynastie dite d'Alsace, où les personnages les plus importants et les plus influents seront les comtes de Flandre et de Hainaut, qui là aussi possèdent des territoires beaucoup plus importants et pourvoyeurs de revenus.
Dans votre livre, Gaël Laufry, je rappelle le titre, hein, Bouvines, la confirmation de la souveraineté, vous évoquez effectivement la petitesse hein, des terres du roi des Francs, mais vous dites que ce titre de roi des Francs a un extraordinaire prestige. D'où vient ce prestige ? Est-ce que c'est le prestige dû au sacre, justement ? Et est-ce que ce sacre est suffisant pour imposer son autorité à des féodaux qui sont plus puissants que lui, matériellement parlant ?
Le sacre est effectivement la pierre angulaire du système capétien, parce qu'il fait dans une société toute chrétienne, évidemment, il fait du souverain quelqu'un évidemment de totalement à part et revêtu d'une aura, mais pas seulement d'une aura, d'une caractéristique, d'une dimension sacrée, qui le place de fait au-dessus de la pyramide féodale, et les rois de France ont tendance, et Philippe Auguste tout particulièrement, sauront utiliser le droit féodal, les règles féodales, à son avantage. C'est une force évidente, c'est aussi quelque chose qui est parfois peu reconnu. C'est-à-dire qu'on a tendance, avec la vision de la monarchie moderne, de la monarchie classique, à penser le roi de France comme étant systématiquement en opposition à la pyramide féodale. Le roi de France, à cette époque, joue de tout. Et le droit féodal est une arme pour celui qui est placé au-dessus, à condition évidemment que chacun reconnaisse ce qui est la grande théorie des rois de France. Rois de France par la volonté de Dieu, défenseurs de l'Église, ils ne sont vassaux de personne. Et c'est d'ailleurs la première définition de la souveraineté. Mais pour autant, placés au-dessus de la pyramide féodale, ils ont la possibilité, vis-à-vis de leurs vassaux directs, que sont les grands, de jouer de leurs droits, notamment lorsque il y a la minorité de l'un d'entre eux, ou lorsqu'il y a une régence, ou lorsqu'il y a une vacance du pouvoir pour une raison qui peut être notamment la captivité. Et à chaque fois, les Capétiens en général et Philippe Auguste en particulier vont toujours savoir jouer d'intelligence pour à la fois placer des gens qu'ils considèrent, ou à tort d'ailleurs, on y reviendra dessus, mais comme sûr, en même temps pour sécuriser les alentours immédiats du royaume et pour, à chaque fois, récupérer, agréger, je dirais, au domaine royal des parties de plus en plus importantes. Parmi les droits féodaux, il y a aussi le droit de justice de ces vassaux. Et nous le verrons, mais Philippe Auguste va s'en servir, puisque le droit de justice, il est d'abord de pouvoir juger ses vassaux, mais aussi de pouvoir les condamner. Et notamment, la condamnation peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la commise, c'est-à-dire la confiscation des terres d'un vassal récalcitrant.
Alors vous expliquez, Gaël Nofré, que Philippe Auguste consacre les premiers temps de son règne, l'essentiel de ses efforts, donc, à contenir les prétentions des grands seigneurs qui menacent son pouvoir. Partout, son objectif sera de soumettre les féodaux les plus forts, de réduire les domaines les plus vastes et d'agrandir donc le domaine royal. Pouvez-vous illustrer cela par les actions concrètes qui ont été menées par donc Philippe Auguste ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Philippe Auguste, d'abord, dès son mariage négocié par son père, mais Philippe Auguste va rapidement perdre son père et va très jeune s'imposer comme une personnalité politique déterminante. Philippe Auguste va notamment par son mariage, son premier mariage, qui lui donnera son héritier, s'assurer pour son fils et donc pour sa dynastie, de la possession de terres importantes au nord du domaine royal, prélevées sur les terres des comtes de Flandre et de Hainaut, terres importantes qui joueront un grand rôle, il faut bien le dire, dans les conflits à venir, mais qui permettent de structurer là encore un peu le royaume. De la même façon, lorsqu'il organise le mariage de tel ou tel vassal, il n'est pas rare que Philippe Auguste prélève une ville ou plusieurs petites ou plusieurs petits châteaux sur les possessions de ceux à qui il organise les mariages. De même, et c'est l'exemple le plus marquant, lorsqu'il va faire comparaître devant lui Jean Santerre pour une histoire de mariage douteux ou d'enlèvement de fiancés, il se sert de ce prétexte ou de cela pour obtenir de celui-ci, enfin pour exiger de celui-ci qui ne se présente pas la commise, c'est-à-dire la confiscation de ses terres et donc la possibilité de les confisquer par les armes, la possibilité ouverte de les confisquer par les armes au nom du droit. L'exemple le plus important sur lequel Philippe Auguste va sans doute avoir un rôle déterminant en termes, je dirais, d'utilisation du droit, ou en tout cas d'utilisation des circonstances plus exactement, et du droit cumulé l'un à l'autre, va être la marche que va entreprendre Philippe Auguste en direction, je dirais, du comté de Toulouse, puisque la réalité, c'est que le comté de Toulouse faisait partie du royaume de France, mais je dirais une partie relativement éloignée ou distante. Il est bien évident que depuis longtemps, les rois de France n'intervenaient plus dans cette partie du royaume, puisque elle leur était bien trop éloignée du domaine royal et de leur capacité militaire, les comtes de Toulouse disposant de fiefs, de revenus autrement supérieurs. Philippe Auguste va se servir de ce qu'on va appeler la croisade contre les Albigeois, ou en tout cas contre les Cathares, pour jouer des équilibres et obtenir à terme pour sa dynastie une mainmise sur ce territoire et finalement, évidemment, obtenir des avantages considérables qui permettent là aussi non seulement de gagner en termes de domaine royal, mais surtout de gagner en termes d'influence directe et immédiate. Ce qui change avec Philippe Auguste, c'est que non seulement effectivement le domaine royal est conforté, il est agrandi, il est augmenté, mais aussi l'autorité et l'implication du roi de France et de la dynastie sur l'ensemble du royaume est consacrée.
Alors, l'agrandissement du domaine royal avec donc une partie du Languedoc à l'occasion de la croisade contre les Albigeois, je pense que ça mérite que vous détailliez la manière dont Philippe Auguste a pu récupérer ses terres, parce que ça s'est fait sur donc de nombreux plusieurs années, et c'est tout d'abord à la demande du pape Innocent III qu'il intervient. dans ces domaines. Oui. Et puis il y a l'épisode aussi, avant que ça lui revienne, c'est Simon de Montfort qui a récupéré les terres du comté de Toulouse, parce que ça lui a été donné par, en quelque sorte par le pape. Pouvez-vous expliquer la manière dont justement, dans toute cette histoire de la lutte contre les Albigeois, entre en gros 1208 et 1224, Philippe Auguste, comment a-t-il fait pour pouvoir récupérer justement ces terres.
Oui, en réalité, ce n'est pas lui seulement qui va le faire. Il va préparer pour que, effectivement, le comté de Toulouse y entre de façon déterminante. Mais on va avoir à plusieurs sur un temps long. Philippe Auguste ne va pas se mêler directement de la croisade des Albigeois, il ne va pas intervenir, en tout cas pour la première partie de son règne, il ne va pas chercher à intervenir, même si il soutient les actions du pape, même si l'engagement de Simon de Montfort contre le comte de Toulouse, Simon de Montfort qui est un seigneur issu du domaine royal, n'est pas pour lui déplaire, Philippe Auguste ne se mêle pas directement de cette querelle. Mais à chaque fois que cela convient, il rappelle son rôle premier et son rôle de suzerain de ses terres pour ne pas que, quel que soit le gagnant, je dirais, de ce conflit, il soit lésé. C'est un conflit qui s'étend, qui va s'étendre longtemps. La mort de Simon de Montfort Simon de Montfort qui avait finalement gagné contre les comtes de Toulouse, redistribuer un peu les cartes, et là aussi les héritiers Louis VIII notamment vont faire en sorte de récupérer ce comté désormais très divisé, très affaibli, en pourvoyant à Maurice de Montfort d'autres titres, et en même temps en récupérant, à travers notamment le mariage d'Alphonse de Poitiers avec l'héritière des comtes de Toulouse, Jeanne, d'obtenir cela. Donc il se sera servi à la fois du rôle du pape, il se sera servi à la fois de la guerre, de la croisade qui a pu être menée, et en même temps de son rôle de suzerain, et de l'atout majeur pour lui que sont pour la dynastie les mariages organisés, pour que finalement, 26 ans après sa mort, le comté de Toulouse rentre définitivement en possession de la couronne de France, ou en tout cas d'un fils de la couronne de France. Ça montre que ça résume bien cette action de Philippe Auguste au service de ce que j'appelais la souveraineté, c'est-à-dire au service de cette vision du royaume de France et de sa dynastie. C'est à la fois l'utilisation de tous les outils politiques, juridiques en sa possession, le rappel sans cesse de sa suzeraineté, de la suzeraineté qu'il exerce au titre de roi de France, et en même temps cette quête d'une influence et d'une prise de possession sur le temps long, sur un temps qui ne peut pas se résumer à une action.
Alors, cette croisade déclenchée à l'initiative du pape Innocent III, qui va permettre en effet à son aboutissement à Philippe Auguste de tripler la surface du domaine royal en récupérant très directement pour le domaine royal une partie du bas Languedoc, sachant que l'autre partie reste effectivement propriété du comte de Toulouse, mais comte de Toulouse qui est vassal du roi de France. J'ai une question un peu candide à vous poser, parce que dans ce système féodal, le comte de Toulouse, par exemple, a toujours été vassal du roi de France. Pourquoi est-ce si important, et c'est la politique qui a été menée donc par Philippe Auguste, pourquoi est-ce si important que le domaine royal s'agrandisse à partir du moment où les féodaux dépendent
du roi de France? Pourquoi? Oui, il y a deux éléments. D'abord, sur le comté de Toulouse, oui, les comtes de Toulouse ne se sont jamais extrait du royaume de France. Le seul comté qui se soit extrait du royaume de France, c'est le comté de Barcelone. Mais on sait que à cette époque, d'abord effectivement l'hérésie cathare, mais même je dirais l'influence notamment de l'Aragon et le rôle important que ce royaume d'attractivité que ce royaume joue, alors que le royaume de France n'a plus d'attractivité dans le sud-ouest depuis, eh bien que les rois de France n'ont plus d'attractivité dans le sud-ouest depuis longtemps, n'en menace pas moins la cohésion du royaume, même s'il n'y a pas effectivement à proprement parler de remise en cause. Les comtes de Toulouse continuent de dater leurs actes en se référant au roi de France régnant, et on les voit participer à un certain nombre de grands moments fédérateurs du royaume, que sont les sacres, les unions, etc. Mais pour autant, il est important à un moment donné de retrouver, de freiner, je dirais, les influences extérieures qui sont des sources d'attractivité, et en même temps de réaffirmer la pleine possession, la pleine suzeraineté des terres. Et puis, je le disais, le domaine royal, l'extension du domaine royal, c'est quelque chose de vital pour Philippe Auguste et pour l'ensemble des Capétiens, parce que c'est de là que le roi de France tire à la fois sa capacité à lever des troupes, sa capacité à lever des financements, et donc, évidemment, sa force. C'est là qu'il trouve les moyens de, de ses prétentions, les moyens de soutenir la légitimité la légitimité et la place qu'il est en droit de revendiquer.
Et c'est pour ça. C'est
toujours, oui. C'est toujours un combat en politique et de tout temps.
Ça n'a pas changé. Hein.
Oui, c'est toujours la question de.
C'est toute l'affaire de coalition.
Oui, c'est toujours la question des moyens au regard d'une ambition. L'autorité et le pouvoir. Avoir l'autorité et la légitimité est une chose, avoir le pouvoir et la capacité d'action en est une autre. Et tout le travail de Philippe Auguste va être de justement livrer ce pouvoir et sa capacité d'action à l'appui de cette autorité, de cette légitimité.
Ce qui vous fait écrire, Gaël Laufry, dans votre livre, je rappelle le titre, Bouvines, la confirmation de la souveraineté aux éditions passées composées, ce qui vous fait écrire, cette politique menée avec succès, il faut le dire, par le roi Philippe Auguste, eh bien une telle politique ne pouvait manquer d'attirer au roi un nombre considérable d'adversaires. Le roi va devoir combattre la plus formidable coalition. Pourquoi cette politique attire au roi un nombre considérable d'adversaires qui va se cristalliser dans cette formidable coalition? Qui dérange-t-il?
D'abord, évidemment, il y a la querelle, je dirais, entre Plantagenet et Capétien. Mais de façon plus générale, on le voit dès le début de son règne, notamment avec l'oncle de son épouse, le comte d'Alsace, issu de la dynastie d'Alsace, comte de Flandre et bientôt de Flandre et de Hainaut, il dérange les nobles, les barons, les grands barons du royaume, qui n'acceptent pas ces empiétements et finalement ce regain d'autorité sur la suzeraineté. C'est une constante de l'histoire, là aussi. Les nobles, les barons, les grands du royaume, et plus tard d'autres qui sont comme des grands et comme des barons, aiment toujours les pouvoirs faibles. Et évidemment, un roi politique qui a la volonté de constituer un pouvoir fort et qui y parvient est toujours regardé comme une menace. Une menace pour ses propres prérogatives, une menace pour son pouvoir personnel. Ça, c'est... Et puis, évidemment, le voisin immédiat qu'est le Plantagenet. Pourquoi le Plantagenet? On le disait, alors peut-être le moment de...
Oui, on peut parler de Plantagenet, justement. C'est intéressant, leur histoire.
Voilà.
Et comment ils se sont développés leur puissance, comment ils sont arrivés au royaume d'Angleterre. Je vous laisse évoquer les Plantagenets comme effectivement le premier ennemi, le premier adversaire de Philippe Auguste.
Oui, parce que c'est d'abord un adversaire qui a une double dimension. C'est un adversaire parce que c'est un monarque voisin et d'un pays ou d'un territoire relativement solide, mais aussi parce que c'est un vassal puissant, autrement plus puissant que Philippe Auguste. Les Plantagenets sont évidemment cette dynastie d'extraction française. Hein, ils sont titrés sur les terres d'Anjou, et à force de mariage, à force d'union, ils vont progressivement se développer comme comte d'Anjou, comte du Maine, et puis mettre la main sur toute une partie de l'héritage de la mère de Henri II Plantagenet, qui sera à la fois le père de Jean, le père de Richard et des autres d'ailleurs, mais ils vont mettre la main sur l'héritage de Guillaume le Conquérant, sur l'héritage normand de Guillaume le Conquérant, c'est-à-dire à la fois la Normandie, territoire particulièrement riche et développé, et puis l'Angleterre, sur lesquelles évidemment Guillaume le Conquérant et ses héritiers.
C'est par mariage qu'ils prennent.
Oui, parce que la mère d'Henri II est la petite fille de Guillaume le Conquérant, et donc évidemment, au terme d'un conflit sur lequel je reviens dans le livre,
on voit les auditeurs au livre. Oui.
mais au terme d'un conflit, ils vont réussir à rentrer en possession de cet héritage de Guillaume le Conquérant, et Henri II, dans le même temps, se mariant avec l'épouse répudiée de Louis VII, Aliénor d'Aquitaine, met la main sur ce qu'on appelle l'Aquitaine, mais qui est beaucoup plus vaste que l'Aquitaine, puisque l'Aquitaine d'alors, c'est l'Aquitaine, mais c'est aussi le Poitou, c'est le Saintonge, c'est aussi la suzeraineté d'une partie du Massif central, ce qui met Henri II à la tête d'une puissance énorme qui comprend toute la côte ouest française, depuis la Normandie jusqu'à Bordeaux, et avec une profondeur non négligeable. Dès lors, évidemment, le combat entre les rois de France et les Plantagenets vont être incessants. D'abord parce que c'est des combats de voisinage qui peuvent toujours s'entendre, mais aussi et surtout parce que le roi de France voit comme une menace ce vassal plus puissant que lui, et le vassal a tendance non pas à voir comme une quantité négligeable, mais une quantité qui pourrait être négligée, le roi de France. Et ça va entraîner effectivement un certain nombre de conflits à rebondissement avec Henri II, puis avec Richard Cœur de Lion, et finalement avec Jean Santerre. J'allais dire, pour son plus grand bonheur, Philippe Auguste est un roi très politique, qui est très fort dans les alliances, dans les négociations de traités, dans les calculs de mariage, là où Henri II et même Richard Cœur de Lion sont des monarques. Richard Cœur de Lion est un monarque flamboyant, c'est le vrai monarque moyenâgeux, c'est un roi guerrier, mais pas tellement politique. Et Henri II, Richard Cœur de Lion et bien plus encore après Jean Santerre, vont ne pas réussir à avoir l'unité de l'aristocratie, de la noblesse, des barons, de leurs vassaux. Plus, ils n'auront pas l'unité de leur propre famille, puisque c'est une famille particulièrement turbulente, où en général les fils se révoltent contre les pères et les frères contre leurs frères. Et donc Philippe Auguste, en très fin manœuvrier politique, va toujours savoir jouer de tout cela.
Mais la chance de enfin la chance entre guillemets de Philippe Auguste passe à ce conflit dont vous expliquez les raisons, Gaël Nofri. La chance de Philippe Auguste n'a-t-elle pas été la mort de Richard Cœur de Lion, parce que ils ont été en conflit naturellement pour la Normandie. Richard Cœur de Lion a battu Philippe Auguste, par exemple à la bataille de Frédéval, hein, cette bataille qui le Vexin normand va rebasculer du côté des Plantagenêts. Et Richard Cœur de Lion meurt d'ailleurs au combat en avril 1199 et va donc être remplacé par Jean Santerre, qui est un chef nettement moins, semble-t-il, capable, un chef de guerre nettement moins capable, mais un chef politique nettement moins capable que Richard Cœur de Lion. Est-ce que la chance de Philippe Auguste ne va pas se trouver là, justement, par la mort de Richard Cœur de Lion, remplacé par Jean Santerre?
Incontestablement, Jean Santerre est un piètre dirigeant, que ce soit politique ou militaire. Pour autant, l'image qu'on a de Richard Cœur de Lion est souvent magnifiée par le roman. Richard Cœur de Lion est un excellent chef militaire, c'est un excellent stratège, il est plein de panache. Est-il pour autant un bon politique sous Richard Cœur de Lion déjà, alors ce n'est pas de son fait personnel, mais sous Richard Cœur de Lion déjà, la monarchie française a largement, et Philippe Auguste ont largement répondu aux attaques plantagenées, parce que si Richard Cœur de Lion gagne sur le terrain des batailles, c'est plus dur sur le terrain politique. Son arrestation, son incarcération sur le retour de la croisade, les troubles qu'il n'a pas su prévoir en organisant la régence, les traités qui ne vont jamais jusqu'au bout des gains que Richard pourrait avoir accumulés. Et même sa mort, d'ailleurs, hein, il ne meurt pas au combat contre Philippe Auguste, il meurt au combat en période de paix avec Philippe Auguste contre un vassal rebelle.
En Aquitaine, je crois.
Oui, c'est ça, du côté de Chalut. Mais il meurt contre un vassal rebelle. Ce qui en dit quand même long, là aussi, sur une incapacité sans doute politique à aller au bout des choses. Mais évidemment, Richard Cœur de Lion est autrement plus armé, je dirais, que ne l'est Jean Santerre. D'ailleurs, Santerre, parce que son père l'avait initialement exclu, ou en tout cas ne l'avait pas inclus dans le partage des possessions plantagenées. Mais Jean Santerre se retrouve à la mort de Richard, seul survivant, des enfants, en tout cas des mâles, des enfants mâles d'Henri II, et donc à la tête théoriquement de ce grand empire plantagenet. Jean Santerre ne sera jamais véritablement accepté, apprécié. Il va faire un certain nombre d'erreurs qui vont braquer contre lui la noblesse poitevine qui historiquement était très et Aquitaine d'ailleurs, qui historiquement était très à la fois autonome, autonomiste et versatile. Ce qui va entraîner notamment des rébellions régulières. Par ailleurs, il va, au moment de son union, il va essayer de précipiter une union en volant à un de ses vassals sa promise, ce qui amènera Philippe Auguste, je le disais tout à l'heure, à le convoquer en tant que vassal, convocation à laquelle il ne se présentera pas, et Philippe Auguste prononcera la commise, c'est-à-dire la confiscation des terres de Jean Santerre. S'il n'est pas en capacité de s'emparer de la totalité, Philippe Auguste va facilement, plutôt facilement, s'emparer au moins d'une partie, à savoir la partie de la Normandie, qui est une partie très riche et sur laquelle beaucoup de seigneurs anglais étaient possessionnés, ce qui va lui aliéner encore un peu plus une partie des seigneurs anglais, qui évidemment se trouveront privés de leurs possessions à ce moment-là. Ce qui explique qu'au moment où on aborde Bouvines, Jean Santerre est déjà en position difficile. Il est d'autant plus en position difficile qu'il a entrepris quelques années auparavant un bras de fer assez délirant, pourrait-on dire, mais avec a posteriori, avec le pape. Il a entamé un bras de fer autour de la nomination d'Étienne Langton, un protégé du pape, comme archevêque de Canterbury, donc le siège le plus prestigieux de l'Église d'Angleterre, hein, de l'Église catholique en Angleterre, puisqu'à l'époque, l'Angleterre est une terre catholique. Et au lieu de chercher des alliés, de trouver des alliés, Jean Santerre va s'entêter au point de voir le pape prononcer l'interdit sur le royaume et en appeler à une croisade contre Jean Santerre. Donc on est sur un truc un peu exceptionnel où le pape en appelle aux chrétiens pour déloger le roi d'Angleterre. Il va faire à ce moment-là volte-face et amende honorable, en allant jusqu'à d'ailleurs offrir le royaume d'Angleterre au pape en expliquant qu'il se déclare vassal du pape pour le royaume d'Angleterre, ce qui n'a pas dû, semble-t-il, renforcer, je dirais, l'estime que pouvait avoir la noblesse anglaise et les seigneurs pour Jean Santerre. Donc c'est une personnalité relativement faible, relativement fade, relativement contestée, qui se présente en 1214 dans le royaume de France pour s'opposer au roi. Une personnalité relativement faible, mais qui bénéficie quand même de quelques forces, et notamment de la force de l'argent, qu'il a en nombre, et qu'il a décidé de mettre au service de cette coalition dont vous parliez, avec d'un côté une armée qui est censée descendre du nord sous le commandement de Otton de Brunswick, et une armée qui vient par le sud, justement par les terres, je dirais, du Poitou, et qui est censée prendre en tenaille et diviser les effectifs français.
Gaël Loffry, on comprend bien donc les raisons qui poussent Jean Santerre à déclarer la guerre au roi de France, retrouver les possessions dont il a été privé par Philippe Auguste, hein, notamment la Normandie. On comprend bien ces raisons, on comprend bien aussi la situation politique de Jean Santerre vis-à-vis donc de la noblesse de l'aristocratie anglaise. On comprend aussi les moyens dont il dispose pour lever une armée. Mais cette grande, très grande coalition qui fait sourire d'ailleurs un de nos auditeurs et qui évoque l'actualité politique à cet égard, cette grande coalition comporte aussi Otton de Brunswick et puis le comte de Flandre et puis on a vu aussi Renaud de Dammartin ainsi qu'un certain nombre de féodaux français. Pourquoi Otton de Brunswick, l'empereur, donc, rejoint cette coalition? Pour quel intérêt? Pourquoi? En quoi veut-il s'en prendre au royaume de France? Et puis il est aussi donc, on l'a compris, effectivement, le comte de Flandre. Pourquoi, effectivement, pour quelles raisons il rejoint cette coalition?
Alors, pour des raisons relativement différentes, mais qui pourraient se résumer en l'occurrence en une, c'est l'argent anglais. Mais au-delà de ça, il y a Otton de Brunswick est le neveu de Jean Santerre. Il est issu d'une famille importante, la famille des Brunswick, qui a par le passé, certains de ses membres, en tout cas certains des ascendants de Otton, ont été empereurs du Saint-Empire. Et il y a une querelle entre les Hohenstaufen et les Welf au sein de l'Empire, les Welf étant soutenus désormais par l'Angleterre, puisque Otton est le neveu du roi d'Angleterre, ce qui a toujours fait évidemment l'opposition pour Philippe Auguste, qui a soutenu depuis le début Frédéric de Hohenstaufen. Et Otton est à ce moment-là en position très délicate dans l'Empire, puisque Frédéric de Hohenstaufen accumule des victoires, et il accumule des victoires politiques, il accumule des victoires militaires, et il a le soutien désormais du pape qui a excommunié Otton de Brunswick. Donc c'est un homme relativement seul et esselé, qui a besoin du soutien de l'Angleterre, qui se met, disons, à sa disposition. Ça, c'est pour autant de Brunswick. Pour Ferrand de Flandre, le comte de Flandre, la situation est un peu différente. Ferrand a bénéficié du soutien de Philippe Auguste. Il est un des enfants du roi du Portugal. Et c'est Philippe Auguste qui a organisé son mariage avec l'héritière du royaume de Flandre et de Hainaut, croyant s'en faire un allié et s'assurer des possessions. Mais comme je vous l'ai dit, en général, quand Philippe Auguste organise quelque chose, il en tire une sécurité personnelle, mais il essaye aussi d'en tirer une part personnelle. Et il a essayé de prélever, ou plutôt il l'a prélevé, il n'a pas seulement essayé, il a réussi, il a prélevé une partie des possessions, quelques communes, de quelques territoires du royaume de Hainaut, du comté de Hainaut, à Ferrand. Et à partir de là, évidemment, Ferrand a accumulé un ressenti contre le roi de France, ressenti d'autant plus entretenu qu'on ne peut rien faire contre les réalités géographiques, économiques et sociologiques d'un territoire, et que la Flandre, de par son économie, était naturellement tournée vers l'Angleterre, et que Ferrand ne pouvait pas se maintenir ou avait du mal à se maintenir en étant, en quelque sorte, si j'ose dire, l'outil, l'objet, l'émanation du roi de France, d'où ces prises de distance qui vont l'amener jusqu'à la rupture et à la lutte contre le roi de France.
Et puis, aussi un mot peut-être sur Renaud Dammartin. La situation est très...
Renaud Dammartin, on crescendo, je dirais, dans la désillusion sans doute pour Philippe Auguste, puisque Renaud Dammartin, petit seigneur de Dammartin, issu du domaine royal, Renaud Dammartin fait le choix d'osciller régulièrement d'ailleurs, hein, puisque ses premiers combats sont contre le roi de France, sa famille est aussi un peu possessionnée sur des terres qui dépendent du roi d'Angleterre, mais Renaud Dammartin évolue au fil de ses intérêts. Mais Philippe Auguste va relativement souvent lui pardonner et lui constituer, peut-on dire, une place à part. D'abord, il le marie dans un premier temps à une de ses cousines, de la famille des Châtillons, une famille prestigieuse s'il en est. Il est, comment dire, raccroché au sang royal, ce qui n'est pas rien. Deuxième chose, ensuite, il lui fait épouser, après répudiation, il lui fait épouser l'héritière du comté de Boulogne, comté riche et puissant, aux limites du royaume de France, pas du royaume de France, mais du domaine royal, non loin du domaine royal, donc place stratégique importante, et c'est une preuve de confiance. Et en même temps, un grand honneur pour Renaud, qui se trouve comte de Dammartin. Et malgré cela, comte de Boulogne, malgré cela, Renaud va nourrir un certain nombre de ressentiments contre le roi de France, notamment au sujet de querelles qu'il a pu avoir. Il est plus vraisemblable que, plus que des querelles ou des ressentiments à l'égard du roi, ce qui motive ou ce qui explique le geste de Renaud Dammartin dans son ralliement à la cause anglaise, c'est que Renaud Dammartin n'a pas compris comment fonctionne Philippe Auguste et comment va désormais en grande partie fonctionner la monarchie capétienne. Elle ne tolérera pas, ou de moins en moins, ce genre de revirement permanent où les barons s'offrent au plus offrant. Et en plus, particulièrement de personnes qui se sont présentées, qui se sont vécues, qui ont été promues comme étant des outils de la monarchie capétienne. Donc Renaud de Dammartin incarne sans doute pour Philippe Auguste, le traître le plus absolu.
Gaël Aufry, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le titre de votre livre pour lequel nous avons le plaisir ce soir de vous recevoir, Bouvines, la confirmation de la souveraineté que vous publiez aux éditions passées, composées. Vous nous avez expliqué les raisons qui poussent à la construction de cette très grande, très forte coalition. Les forces adverses au roi de France seront en nombre bien plus important que ce que le roi pourra lui opposer. Vous avez donc expliqué les raisons différentes entre Jean Santerre, mais Jean Santerre va en quelque sorte financer Otto de Brunswick, qui va rejoindre donc en tant qu'empereur cette coalition. Et puis vous avez évoqué le cas des grands féodaux, pourtant proches à un moment du roi Philippe Auguste, hein, Renaud de Martin et le comte de Flandre. Il nous reste seulement 7 minutes en votre compagnie, Gaël Aufry, pour évoquer cette campagne, ces deux batailles. Ça va se régler en deux batailles, une bataille à côté de Poitiers, la Roche-aux-Moines, entre le fils du roi de France et Jean Santerre, et puis, bien sûr, la bataille de Douvines, avec là, bien sûr, Philippe Auguste, face à Otto de Brunswick et aux féodaux que nous avons évoqués. Je voulais aussi vous demander de nous expliquer le rôle des milices, parce qu'on dit Bouvines, c'est une victoire symbolique, parce que c'est aussi la victoire des Français, si on peut parler de ce terme à cette époque, par le rôle justement des contingents qui sont issus de 17 milices communales. Voilà, je vous laisse la parole, c'est peu de temps pour évoquer tout cela.
Sur la Roche-aux-Moines, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Jean Santerre débarque donc en 1214 avec l'idée de prendre en tenaille le royaume de France. Philippe Auguste envoie son fils, le futur Louis VIII, pour mener la guerre contre Jean Santerre, qui au départ bénéficie des circonstances et de la supériorité en nombre et semble avancer de façon relativement aisée. Et qu'est-ce qui va se passer? Coup de théâtre devant la Roche-aux-Moines, alors qu'il mène le siège de la Roche-aux-Moines, qui est cette forteresse relativement récente à l'époque, construite comme un verrou de la région. On a les troupes. Quand les troupes françaises se présentent, il n'y a plus de troupes anglaises, elles sont en déroute, le matériel de siège est abandonné, les tentes sont abandonnées. Il semble que ce soit la défection, je le disais tout à l'heure, il n'a pas été très fort. Jean Santerre, dans son rapport à la noblesse poitevine, la défection d'une partie de la noblesse poitevine, qui est permis une première vague de défection entraînant une débâcle dans le camp. Et donc, finalement, Louis VIII n'a qu'à paraître, enfin, le futur Louis VIII n'a qu'à paraître pour que la victoire lui soit donnée. Et une victoire importante parce que, privant des matériels de siège et d'un certain nombre d'armements, elle contraint Jean Santerre à l'inaction par la suite. Et donc, c'est assez décisif. Il ne peut plus reprendre l'avantage. Dans le même temps, quelques jours plus tard, donc nous sommes le 27 juillet sur le front nord, Philippe Auguste amène son hoste au combat, et comme je vous le disais, il entame, apprenant que des troupes supérieures en nombre menées par Otton IV de Brunswick, assorties du comte de Flandre, du comte de Hainaut, mais aussi de contingents anglais menés par le demi-frère de Jean Santerre, s'approche. Philippe Auguste va essayer de profiter du fait que le lendemain soit un dimanche pour une retraite stratégique vers un endroit où il pense être en position de force et où il se dit qu'on évitera un combat et une confrontation directe. Voyant l'armée fuir, Otton IV se dit tiens, une armée en déroute, je vais leur donner la charge. Et c'est à ce moment-là que, passant au niveau de Bouvines, Philippe Auguste décide de se retourner et d'engager la bataille pour ne pas la fuir, même si nous sommes un dimanche. Il s'estime défenseur et non agressé, et donc non en tort, et que la bataille va s'engager. Sur cette bataille, on a beaucoup parlé du poids des milices. Je pense qu'il est largement à relativiser, puisqu'effectivement, 17 milices communales sont présentes à ce moment-là. C'est une petite partie des villes, une partie en tout cas des villes représentant le domaine royal et non le royaume de France, hein, puisqu'elles sont toutes issues du domaine royal, évidemment. Pour autant, le symbole est là. Alors, elles ne vont pas jouer un grand rôle dans la bataille parce qu'elles arriveront pendant la bataille. Comme je vous ai dit, on s'est mis en ligne relativement vite pour faire face à l'ennemi. Quoi qu'il arrive, en tout cas, au moment où la bataille s'engage, on a un événement qui est particulièrement important, je crois, et qui en dit plus sans doute sur le sentiment national ou sur la naissance du sentiment national que tout le reste, c'est que un des opposants, un des chevaliers dans le camp coalisé, va s'écrier « mort aux francs, mort aux francs, mort aux francs, mort aux français, mort aux français, mort aux français », ce qui va, d'après le chroniqueur, souder le camp autour du roi de France et provoquer une réaction. Ce qui veut dire qu'on est bien à un moment où on n'est plus dans une bataille de féodaux contre d'autres féodaux, mais véritablement que la donnée nationale rentre en compte. Et dès cet instant-là, d'ailleurs, Ferrand et Renaud de Dammartin ne peuvent être jetés que dans les 30 détraites. Ils sont opposés aux Français sur le champ de bataille. Et véritablement, on y voit une définition qui nous est attestée aussi par la suite, lorsque l'on rencontre, après la victoire du cortège qui rentre vers Paris, ce cortège est acclamé par la population, ce qui est bien la preuve, là aussi, d'un éveil d'un sentiment autour de la personne du roi, autour de l'host du roi, autour de la cause du roi.
Gaël Laufris, cette bataille prend cette dimension symbolique, une victoire des Français, par ce cri de l'adversaire « mort aux Français ». C'est ça qui provoque d'abord cette cohésion, cette réaction des soldats.
Je pense que c'est un tout et c'est un révélateur. Mais je pense qu'effectivement, ces mots, pour qu'ils soient répétés par le chroniqueur et pour qu'ils aient un sens pour les lecteurs du chroniqueur de l'époque, c'est qu'ils devaient avoir déjà une réalité vécue.
Eh bien, Gaël Laufris, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct, malgré les circonstances et l'actualité. Nous vous en sommes très reconnaissants d'être venu parler de cette bataille de Bouvines, comme vous le faites si bien dans votre livre passionnant, Bouvines, la confirmation de la souveraineté aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup à vous, Gaël Laufris. Merci à Stéphane, à la technique. Merci à Marie-Hélène. Et merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 7 juillet 2024 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.